tout le basket est sur RTL l'équipe. Carrément Basket, Frédéric Schwecker.
Bonjour à tous, Carrément Basket, toute l'actualité de la balle orange décortiquée pendant une heure. Tout le monde, presque tout le monde est déjà autour de la table, prêt à participer à cette émission que vous pouvez bien évidemment retrouver en podcast sur RTL.fr, sur le blog de Romain Brunet qui est à côté de moi, le blog Au Rebond sur lemonde.fr qu'on peut retrouver sur Basket Session, Basket USA, et attention, la nouveauté à partir de cette semaine, la page Carrément Basket sur Facebook également. Vous pouvez interagir sur cette émission, nous laisser vos commentaires, continuer les débats, et nous donnerons en tout cas les commentaires, vos commentaires à l'antenne concernant les différents sujets abordés. Allez, on s'est parti pour le sommaire. La NBA, on en parlait à l'instant avec Guillaume, le très bon début de saison à l'ouest des Lakers de Los Angeles et des Hornets de New Orleans, invaincus après respectivement 8 et 7 matchs. Faut-il s'inquiéter par contre pour Miami qui a chuté cette nuit pour la troisième fois en 8 matchs, c'était face à Utah. Et que se passe-t-il avec Michael Pietrus, notre Français d'Orlando qui cire le banc depuis le début de la saison, round-up de tout ce qui s'est passé cette semaine outre-Atlantique. L'invité du jour, on l'en parlait à l'instant, c'est Kadour Ziani qui va nous rejoindre dans quelques petites minutes maintenant, l'un des visages du streetball français et notre empereur du dunk qui viendra nous parler d'un événement qui se prépare en Algérie et sera notre grand témoin du jour. Cholet qui vise une deuxième victoire de suite en Euroleague sur le parquet du Cibona Zagreb après un succès face à Vilnius la semaine dernière qui lui a permis de conserver l'espoir d'une qualification pour le top 16. Un ancien Cholet, Bruno Coquerand, sera avec nous dans cette émission. La Pro A en fin d'émission avec le résultat du week-end et surtout hier, la victoire de Gravelines sur Poitiers qui permet aux Nordistes de prendre les commandes du championnat de France.
Pendant une heure, avec Frédéric Schwecker et ses invités, balayez l'actualité du basket sur RTL l'équipe.
Et autour de la table, pour cette émission Carrément Basket, je le disais, Romain Brunet du blog Au Rebond sur lemonde.fr. Salut Romain, tout va bien ?
Tout va bien.
Bonne semaine encore, hein. Beaucoup de choses qui sont passées. Hein.
On va décortiquer
ça. On va décortiquer tout ça. Notre consultant basket, notre voix du basket, la voix également du basket sur Canal+, c'est Georges Eddy. Salut Georges.
Salut.
Nous aussi, hein, les petits yeux, hein, après tout ce qui s'est passé cette nuit, il a fallu suivre, hein, c'est pas facile, hein, tout ce qui s'est passé notamment en NBA. Hein. Allez, on va commencer bien évidemment cette émission par la NBA avec les résultats de la nuit précédente et notamment la nouvelle victoire des Lakers de Los Angeles. C'était face à Minnesota.
Carrément Basket.
Carrément Basket.
Oh,
super.
La NBA.
Et de 8 pour les Lakers de Los Angeles, les champions en titre qui se sont imposés la nuit dernière, 99 à 94. Départ parfait, Georges, hein, pour les champions en titre, c'est le moins qu'on puisse dire. 8 victoires, 0 défaite, aucun accro. Les stars qui sont au top de leur forme.
Oui, au contraire de la Nouvelle-Orléans, ce n'est pas du tout une surprise. Kobe Bryant a déjà fait un triple-double. Il s'appuie davantage que par le passé sur un étincelant Pau Gasol, qui est le meilleur intérieur au monde, NBA ou basket FIBA y compris. Tout se déroule parfaitement. J'ai vu un coach NBA qui a dit que Lamar Odom joue au niveau d'un All-Star actuellement.
Ce qui n'est pas faux.
Bynum n'est même pas là. Alors, qu'est-ce que ça va être quand Bynum sera de retour pour renforcer un jeu intérieur qui est déjà costaud?
C'est vrai, hein, Romain, que c'est une véritable armada qui est en place. Et on le disait, avec des stars qui sont en forme, des joueurs de complément également. On parle notamment de Lamar Odom, si on peut parler de lui maintenant comme un joueur de complément, parce qu'on a l'impression qu'il devient de plus en plus un cadre dans cette équipe. On se demande même d'ailleurs, est-ce qu'il devra retourner en tant que remplaçant avec le retour d'Andrew Bynum? Il commence à s'imposer de plus en plus, en tout cas, l'ailier des Lakers.
Effectivement, il y a débat, il fait de très bonnes performances. Bon, les Lakers, comme on l'a dit, c'est une équipe qui est bien rodée, hein, c'est le même noyau dur depuis plusieurs saisons. Les joueurs se connaissent parfaitement. Effectivement, les stars sont au rendez-vous. Pau Gasol, on a parlé du triple-double de Kobe Bryant, mais Pau Gasol aussi fait d'excellentes performances. Les joueurs, les recrues de l'intersaison, Steve Blake, Matt Barnes, assure parfaitement en sortant du banc. Donc voilà, alors que
Kadour Ziani arrive, 11h35, avec un tout petit peu de retard, on va dire. On va saluer Kadour, bonjour Kadour, et on va le laisser s'installer tranquillement. On vous laisse continuer, Romain, sur les Lakers.
Donc voilà, donc c'est une équipe qui est bien rodée. Attention tout de même à ne pas surévaluer. Certes, ils sont à 8-0, mais ils n'ont pas non plus joué des adversaires très, très forts. Je crois qu'il n'y a que Portland, ouais, qui est vraiment une grosse équipe qu'ils ont affrontée jusqu'à présent. Les autres, bon, on a vu Houston, ils avaient eu du mal face à Houston lors du premier match, mais on a vu que depuis, Houston avait quand même du mal cette saison. Pour le reste, c'est Minnesota, je crois.
Ouais, c'est pas des équipes
un peu,
plus, c'est,
voilà, Toronto, Sacramento, Memphis, Golden State. Voilà, ce n'est pas des équipes
pas
non
grave,
plus qui jouent,
ouais,
le titre.
Ils sont très forts. Et ils vont battre les adversaires costauds aussi.
Et la suite du calendrier, c'est à Denver, Phoenix, Milwaukee, à Détroit, à Minnesota, Golden State. Et après, ça se complique un petit peu avec Chicago et un déplacement à Salt Lake City face à Utah. Et surtout, on voit, Georgien, que depuis le début de la saison, c'est pas Kobe Bryant le meilleur marqueur de l'équipe. Hein. C'est l'Espagnol, c'est Pau Gasol. Avec,
oui,
24 points
fait
par match contre 22 points
et
pour Kobe.
Ça va continuer parce que Kobe a 32 ans maintenant, a besoin de s'économiser pendant la saison régulière et tout garder et tout donner en play-off. Et il est devenu plus altruiste et plus intelligent sur ce point de vue-là. C'est intéressant ces histoires de calendrier parce qu'on voit par exemple Atlanta, c'est pareil, ils ont commencé avec 6 victoires de suite parce qu'ils avaient des adversaires faibles, mm-hmm, ils jouent beaucoup à la maison sur les 14 premiers matchs, donc à un moment ou à un autre ça va devenir très dur pour tout le monde.
Oui, à un moment ou à un autre,
c'est
le calendrier
ça
va commencer à se densifier, à se renforcer
pour les Lakers comme pour... Bon, par contre la Nouvelle-Orléans, on va en parler, ouais, plus tard, eux ils ont joué des adversaires forts et ils sont invaincus et c'est là la surprise absolue de ce début de saison.
Et à croire que Kadour Ziani savait qu'on avait parlé des Lakers de Los Angeles, il est venu avec son petit sweat violet et le petit bonnet jaune couleur de Californien. Bonjour Kadour.
Bonjour à tous, ben, honneur aux champions, hein, les Lakers sont...
C'est impressionnant, hein, le début de parcours des Lakers, on en parlait justement la Kadour.
Enfin, en fait moi ce que je... Ça fait bizarre, je suis dans la peau d'un mec hors jeu, parce que ça fait presque un an ou deux ans, là, je regarde plus la télé, je me suis désintéressé de tout, donc je suis un peu le mec un peu has-been aujourd'hui, ça fait plaisir.
Bienvenue au club.
Voilà, je suis hors jeu, voilà.
Mais c'est vrai qu'en tout cas, les Lakers de Los Angeles sont impressionnants, tenant du titre, il faut, ouais, le rappeler, hein, depuis deux ans maintenant, double tenant du titre.
Ah, okay.
Et on sent quand même, hein, que cette formation, de par son vécu, de par ce qu'elle apporte depuis le début de l'année, semble encore une fois intouchable, hein, Georges, Romain.
Ils sont en pleine force de l'âge. C'est ça que je dis depuis le début de saison. Il n'y a pas de joueur vieux là-dedans. Même à 32 ans, Kobe, beaucoup de kilomètres peut-être, mais à côté de Pau Gasol et même Lamar Odom, ce sont des joueurs qui mélangent les qualités athlétiques et l'intelligence de jeu entre 28 et 33 ans. C'est the prime, comme on dit, pour un joueur américain.
Seule exception peut-être de Derek Fisher qui,
oui,
qui commence,
oui,
un,
oui,
petit peu.
C'est pour
à
ça que
je
n'ai pas cité,
bon,
Fisher. Mais il y a Steve Blake qui arrive derrière lui.
Exactement. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait une bonne recrue, un bon recrutement. Et en tout cas, ce qu'on voit, voilà, c'est une équipe sereine, tout simplement, quoi, qui déroule son basket. Et à l'image de leur coach Phil Jackson, qui est toujours impassible
qui
sur le banc.
Qui n'est pas has-been non plus.
Ah non,
ça, réaction, voilà, ils maîtrisent leur sujet. Et bon, bah, ils vont encore faire une saison magnifique. Et à mon avis, ils iront au bout de toute façon.
Est-ce que les New Orleans Hornets, justement, on va en parler de ces Hornets de Chris Paul, est-ce qu'eux, ils peuvent titiller un peu le champion en titre? Alors, on les a annoncés, allez, entre la 7e et la 12e place à la fin de la saison. Et ben pour l'instant, Georges, là, pour le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on s'est tous trompés. Ils commencent avec,
oui,
7 victoires, 0 défaites.
Moi, le
c'est
premier.
C'est pas mal. Hein.
C'est complètement inattendu. Saison galère où ils ont viré Byron Scott. Le nouveau coach était faible. Chris Paul blessé toute la saison dernière. C'était catastrophique à tous les niveaux. Et maintenant, l'arrivée d'un jeune coach, Monty Williams, formé à l'école de Pat Riley, de Popovich et d'autres grands coachs, Nate McMillan. Alors, c'est déjà un candidat principal pour le coach de l'année. Ça paraît évident. Ce renversement total de situation qui commence avec une grosse défense, comme Miami veut mettre en place. C'est la troisième meilleure défense de la NBA actuellement à la Nouvelle-Orléans. Ils ont un jeu très léché, comme Popovich, bonne exécution et bon, s'il n'y a pas de joueur majeur blessé, c'est une équipe qui va monter très haut dans la conférence Ouest.
Et c'est vrai, hein, qu'on n'attendait pas cette équipe-là de New Orleans, Romain, une équipe qui est menée par Chris Paul qui a connu une saison gâchée par les blessures l'année dernière. On l'a lancé partout, sauf à New Orleans cet été.
Exactement, c'est pour ça que c'est d'autant plus étonnant. C'est que et Chris,
oui,
Paul a montré durant l'été des envies de départ, hein, avec des annonces. On pensait à New York, hein, pour rejoindre en même temps donc Stoudemire et Carmelo Anthony.
Sans, voilà, Antonio, donc, aussi. Hein.
Sans,
on
Antonio
l'avait annoncé
également,
en échange, ouais, avec Tony Parker. Hein.
Exactement. Donc, et on le retrouve en ce début de saison, étincelant, à la baguette d'un collectif qui fonctionne bien. On voit que tous les joueurs sont impliqués. C'est encore, je crois que la nuit dernière, ils étaient 6 joueurs à plus de 10 points.
C'est ça.
Donc voilà. Et puis, il y a une recrue, Marco Bellinelli, qui a passé par.
Titulaire, qui
avait fait une saison catastrophique l'année dernière à Toronto, et qui est impliqué, voilà, qui est dans le 5 et qui retrouve son jeu. Voilà. Donc, il y a Emeka Okafor aussi à l'intérieur.
72% de réussite. Okafor, meilleur pourcentage de la NBA actuellement.
C'est des joueurs qui renaissent complètement. Hein. On pense à Emeka Okafor, Peja Stojakovic également, David West.
Stojakovic est out. Alors, Stojakovic, il est même sur l'inactive list.
Mais il ne défend pas. Et à son âge, ça ne va pas s'améliorer. Donc, Monty Williams veut construire avec des jeunes athlètes d'abord une grosse défense et puis de la patience en attaque. C'est déjà en place. C'est ça qui est étonnant. Ils ont battu Miami, ils ont battu San Antonio. Non, mais franchement, je suis ébloui par les Hornets.
Et c'est vrai qu'on ne pensait pas, en tout cas, qu'ils pourraient autant s'imposer face à des grosses équipes. On parlait d'Atlanta tout à l'heure, qui effectivement a connu un très bon début de saison, mais en étant face à des équipes faibles. Là, pour le coup, face à des équipes fortes, c'est, on a envie de dire, respect total. Pour
c'est tout bénef, respect total. Et pour ce Monty Williams, c'est bien de voir un homme qui arrive un peu inconnu, pas de nulle part, mais inconnu, et boum, il arrive devant la scène.
Et d'ailleurs, ils vont être face à un énorme test, hein, New Orleans, avec une double confrontation cette semaine face à Dallas, Romain. Là, pour le coup, on va vraiment pouvoir tester le niveau de cette équipe.
Exactement, il va falloir maintenant confirmer. Ils ont aussi joué, à mon avis, là-dessus, sur cet effet de surprise. Hein. Ils étaient, personne ne les attendait, comme on a dit. Coach nouveau, joueur qui voulait partir. Donc voilà, ils ont réussi un bon début de saison. Maintenant, la difficulté, ça va être de confirmer face à des équipes qui vont les attendre, parce que toutes les autres équipes NBA maintenant sont prévenues. Ils savent que New Orleans est bien présent cette saison. Donc voilà, donc on va voir, justement, regarder avec attention ces deux matchs face à Dallas pour voir si c'est pas juste un feu de paille.
Allez, viens également nous rejoindre. Il a eu quelques petits soucis pour se connecter en direct des bureaux du quotidien de l'équipe, mais il nous fait le plaisir également d'être avec nous ce matin. C'est Jean-Luc Thomas pour représenter justement le quotidien sportif numéro 1. Salut Jean-Luc.
Eh bien, bonjour mon cher Frédéric, bonjour à tous. Oui, en effet, j'avais de graves problèmes de connexion.
Bon,
les
studios
étaient un peu bouchés, mais me voilà.
Vous êtes nous. Vous êtes quand même plus en retard que Kadour. Je tiens quand même à le signaler. On a beaucoup...
Record battu.
Record battu. On parlait en tout cas du très bon début de saison, Jean-Luc, de Los Angeles et de New Orleans.
Deux équipes encore invaincues, évidemment. Disons que les Lakers, on pouvait s'y attendre. Les Hornets, c'était pas exactement la même musique. Ouais, j'écoutais les dernières phrases que vous avez prononcées et j'y souscris tout à fait. Et c'est vrai que ils vont avoir une confrontation intéressante. Moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette équipe-là semble avoir une profondeur qu'on lui soupçonnait pas. En tout cas, ça s'est vu hier sur le match contre les Clippers, où ils ont obtenu pas mal de choses de leur banc. En même temps, ça n'était que les Clippers, évidemment. Mais bon.
Faut le faire.
C'est pas mal.
C'est quand même Miami sans Antonio avant, on disait. Hein. C'est quand même pas mal. Hein,
et c'est Jared Bayless qui est intéressant. Il a fait une autre passe décisive hier. Donc, il joue derrière Chris Paul, plus dans un rôle de meneur que scorer qu'il avait à Portland. Et là, c'est un sixième homme explosif.
Belle recrue pour remplacer Darren Collison, en tout cas, pour
tout à fait.
New Orleans. Alors, Kadour, vous me disiez que vous n'avez pas regardé la télé pendant 2 ans. Vous n'avez rien suivi de la NBA. Avant de parler de Miami, on va faire un petit tour au tennis. On va retrouver Myrtille Rambion sur place pour nous parler du tournoi de Bercy qui se déroule actuellement. Avec, je crois, on connaît Myrtille, le premier qualifié de la journée. Hein.
Et oui, bonjour Fred, bonjour à tous.
Bonjour,
c'est Andy Roddick à l'instant, 1h02 sans un pli face à Jarkko Nieminen. Andy Roddick qui s'est donc qualifié pour les 8e de finale où il affrontera Ernest Gulbis.
RTL Équipe, la radio du sport en live.
Eh oui, priorité au live sur notre antenne, bien évidemment, entre l'escrime et le tennis, on a beaucoup, beaucoup de choses à suivre. On parlait de Miami, Kadour, même si on n'avait pas suivi la télé pendant 5 ans, vous ne pouvez pas avoir raté cette intersaison de Miami avec ses arrivées dont tout le monde a parlé, à moins d'être enfermé dans une grotte, sinon je pense que...
Il y a eu des fuites. C'est vrai que là, j'ai entendu parler d'une révolution avec... en composition des super égos.
Tris amigos. On parle pas encore d'égo. Pour l'instant, ce sont que des amis.
Des amis,
c'est des amigos.
Amigos, on va dire.
Non, mais on va dire que voilà, c'est un peu une solution où on en vit maintenant. La finalité, c'est de gagner des titres, composer avec des facilités, prendre des gens qui veulent juste avoir des bagues. parce que voilà, après c'est dur d'être Michael Jordan et de composer autour d'un individu qui peut rendre les gens meilleurs, et je pense que c'est ça le vrai exploit, c'est de rendre les gens meilleurs et d'être patient comme Kobe il a su être patient. Après moi je veux pas juger qui que ce soit ni blâmer qui que ce soit, mais en tout cas voilà, ça montre, ça donne aussi des valeurs comme quoi Michael Jordan il a mis la barre.
Vous l'auriez fait rejoindre d'autres.
Moi je suis têtu, moi je suis comme George, quand je rate à 3 points je continue. On vit et on meurt.
On meurt avec les tirs extérieurs.
C'est ça.
Vous l'auriez fait vous, parce que est-ce que vous seriez resté dans votre équipe comme aurait pu le faire LeBron à Cleveland et tenter coûte que coûte de gagner un titre, ou est-ce que vous auriez comme beaucoup l'ont dit tenté la solution de facilité en rejoignant
Non, franchement, Chris Bosh, franchement la plus belle des victoires, c'est de rendre les autres meilleurs. Et la finalité, certes, c'est d'avoir le titre, mais on ne peut pas l'avoir tout seul. Comme il disait Georges, en l'écoutant parler, ça me faisait penser à comme s'il parlait des Chicago Bulls à l'époque, où chacun avait son rôle, chacun était concentré sur ce qu'il avait à faire. Tout le monde était enjoint dans la même finalité, et tout le monde respectait son rôle, mettait son ego au service d'eux. Et ben là, avec... Quand je vois les petits raccourcis que les LeBron James a pris, ça me fait penser voilà quoi, que en fin de compte les mecs ils en ont rien à foutre quoi. Ils veulent juste le titre, quitte à s'allier et puis voilà.
Non, je pense que Miami franchement peut faire tout ça, peut créer un collectif, partager. D'abord c'est une équipe qui défend très bien d'entrée de jeu et c'est la base de tout. Moi j'ai dit déjà la semaine dernière, je trouve que Miami est un peu en avance sur son tableau de marche.
Okay.
Je ne pense pas qu'ils vont gagner des titres dès la première année, mais ça se met en place correctement. Ils avaient quand même 22 points d'avance hier avant de perdre bêtement contre Utah.
Ça a fait mal quand même. Hein. Oui. On rappelle ce score, 116-114 après prolongation, après effectivement avoir mené de 22 points. C'est vrai que Romain, c'est une petite contre-performance quand même pour Miami. Comme le disait Georges, ils étaient un peu en avance sur le tableau de marche. Ça commençait à bien tourner. Là, ça peut remettre à me donner un petit coup derrière la tête.
Et c'est Millsap qui fait un record de carrière avec 46 points. Ce qui montre que la faiblesse de cette équipe, c'est au niveau des intérieurs.
Même si Chris Bosh a fait un bon match la nuit dernière, il a été critiqué ces derniers matchs.
D'ailleurs, on a pu lire Udonis Haslem dire c'est compliqué pour Chris Bosh pour le moment.
Ouais, parce qu'il doit trouver sa place. C'est vrai que les ballons passent beaucoup entre les mains de Dwayne Wade et LeBron James, un peu moins entre celles de Chris Bosh. Mm-hmm. Et il a notamment été critiqué sur son manque de présence au rebond. Il a eu du mal. Il a fait un match, je crois, à seulement un ou deux rebonds, quelque chose comme ça. Bon, la nuit dernière, ça a été mieux, mais voilà, il faut qu'il arrive à trouver sa place voilà, dans ce collectif. Il arrive quand même à prendre un certain nombre de tirs. Hein. Il manque pas de possibilités de marquer. Mais voilà, après son rôle, ça va être peut-être pour lui un peu plus dur de l'accepter, parce qu'il doit d'abord être la pierre angulaire en défense, dans la raquette. Et c'est vrai que bon, bah, c'est un rôle différent de ce qu'il connaissait à Toronto.
Jean-Luc, c'est une pierre assez étroite.
Ouais, écoutez,
Jean-Luc, est-ce que finalement Miami, c'est pas une équipe normale? Qui peut gagner et perdre comme tout le monde, alors qu'on les annonçait comme
elle n'est pas elle n'est pas normale, parce que tout ce qu'elle a fait pour être ce qu'elle est aujourd'hui, tout est anormal là-dedans. Déjà, c'est pour rigoler ça, mais enfin bon, expliquez-moi le caractère hispanique des tres amigos. Hein. On va rigoler quand même.
Bah, parce bon, que c'est
du marketing pur.
C'est
du marketing pur,
du marketing
pur voilà. dans un voilà.
Bon, c'est pour les Cubains de Miami qui vont venir à la salle.
Oui, mais bien sûr. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y a eu tellement de marketing autour que ça brouille complètement la lecture. Après quand Georges dit ils pouvaient être en avance un peu sur leur tableau de marche, le problème c'est que c'est vrai si on considère que c'est une équipe et qu'une équipe ça doit se construire. Le problème c'est que c'est une équipe qui a Dwayne Wade, LeBron James, Chris Bosh, et que c'est une équipe dont on attend qu'elle gagne tout de suite, pas dans 3 ans. Donc fatalement vous regardez pas les choses de la même façon. Oui, dans le processus normal, elle a du temps, et moi je veux bien mettre à la limite une petite pièce sur Miami en finale et pourquoi pas champion. Mais ce qui est très compliqué pour eux, on parle de ce qui est en train d'apparaître, de leurs problèmes à l'intérieur. Honnêtement, avec la valeur athlétique des trois amigos en question, c'est un problème qui, dans le fond, et dans un collectif rodé ne devrait pas trop se poser. Je veux dire par là que dans la spécificité des postes, la supposée faiblesse de Miami à l'intérieur, elle est peut-être moins apparente que
Sauf contre les Lakers.
Des Lakers sur le poste 1, par exemple. C'est moins caricatural. Mais ça demande beaucoup plus de travail. Ça demande beaucoup plus de travail pour être très cohérent dans le jeu et masquer cette supposée faiblesse. Alors bon, moi je pense que c'est une équipe qui est loin de d'avoir tout donné. Je trouve quand même que dans l'attitude, quand vous êtes justement dans le contexte où ils étaient hier, où vous bâtissez un gros lead et où vous faites ramasser comme ça, c'est pas terrible quand même.
Ça fait un peu tâche.
Laisser filer 46 points à Millsap, il y a un truc là. Je trouve que dans l'attitude, ils y sont pas quoi.
Et d'ailleurs, Jean-Luc, je renvoie tous nos auditeurs d'RTL d'équipe à votre papier que vous avez laissé sur l'équipe.fr concernant justement le début de parcours de Miami et des Lakers de Los Angeles et sur cette fameuse utopie des 72 victoires.
Ça c'est encore un truc qui est monté dans les médias américains, c'est tout le marketing extrêmement bien fait et qui nous passionne en plus. La preuve c'est que j'écris dessus, donc c'est bien que ça me passionne.
Mais en même temps
je pense que la sagesse commande de dire que ce record là on l'aura quand on n'ira pas le chercher.
En gros, ce qu'on a vu,
on ne joue pas pour gagner 72 victoires, c'est évident quoi.
Et pour répondre à Cadeau, on a vu quand même une équipe de Miami qui, sur certains matchs, et notamment le tout premier face à Boston, on s'en souvient tous, on l'avait tous décortiqué ici, c'était un peu du 1 contre 1 à outrance pour les trois stars. Et là, petit à petit, on commence à voir des joueurs prendre un petit peu plus leurs responsabilités, prendre un petit peu plus de volume dans le jeu. Et c'est surtout effectivement la puissance défensive de cette équipe. On l'a vu face à Orlando, où Orlando n'avait inscrit que 70 points, on s'en souvient, dans ce choc.
On l'a moins vu hier, justement.
On l'a justement moins vu hier, ce barreau défensif, en tout cas, pour l'équipe de Miami, qui va beaucoup s'appuyer sur sa défense cette année. En tout cas, c'est une défaite qui, on le disait, fait un petit peu tâche dans le parcours de Miami, après avoir mené de 22 points. Juste pour conclure, on a une minute pour parler de l'équipe d'Atlanta, messieurs, qui a quand même fait un bon début de saison, même s'il reste sur deux défaites consécutives. Ils avaient bien démarré. Également, vous le disiez, avec un calendrier très très facile,
en tout cas
pour les Hawks.
Oui, et après les 6 victoires, je me souviens, ils jouent 6 sur 8 à la maison. Donc jusqu'au 14e match, c'est une équipe qui peut avoir un palmarès extraordinaire. Mais comme pour tout le monde, ils vont par la suite avoir une période très difficile de calendrier avec, par exemple, 6 ou 7 matchs à l'extérieur, avec des back-to-back et des enchaînements. Et c'est là où, après 25 ou 30 matchs, on commence à avoir une vision plus claire.
Sur RTL L'Équipe, carrément basket, jusqu'à midi et demi.
Allez, on continue de parler de la NBA, messieurs, et on va s'attarder sur le cas de l'un de nos Français, qu'on peut lire dans les colonnes de L'Équipe aujourd'hui, le cas de Mikael Pietrus, qui il y a 2 ans, lors de la finale face aux Lakers de Los Angeles, nous semblait totalement épanoui, bien dans ses baskets en Floride, etc. Et qui là, Romain, depuis le début de la saison, est en train de vivre une période cauchemardesque, au point de s'engueuler avec son coach, d'ailleurs.
Et ouais, il est sorti carrément des plans de son coach Stan Van Gundy. Il est en bout du banc, il rentre quand le match est déjà décidé, ou lorsqu'il rentre, puisque je crois que l'année dernière, il n'est même pas rentré en jeu. Il est barré par Vince Carter et JJ Redick qui sont devant lui. Je pense que le problème, justement, vous faisiez allusion à cette finale perdue par Orlando contre les Lakers il y a 2 ans. À cette époque-là, Mike Pietrus jouait très bien, était dans le 5, il était le défenseur attitré de la star adverse contre Kobe Bryant et puis contre LeBron James en finale de conférence face à Cleveland. Et c'est à cette époque qu'il s'est blessé au poignet. Et depuis, il n'a jamais réglé ce problème de poignet. Tous les ans, tous les étés, il pense se faire opérer. Finalement, il ne se fait pas opérer. C'est un problème qui traîne. Ça lui a coûté des participations avec l'équipe de France. Ouais. Et maintenant, je pense que c'est aussi la raison, une des raisons, ou sinon la raison principale pour ces problèmes actuels au sein d'Orlando. Donc, je pense que tant qu'il n'aura pas résolu ce problème, tant qu'il ne sera pas à 100% physiquement, il ne pourra pas retrouver la place qui était la sienne en 2008.
C'est vrai, Jean-Luc, on attendait cette opération cet été. Il avait dit, je fais une croix sur l'équipe de France pour justement pouvoir me faire opérer du poignet.
Pas opéré.
Et au final,
si j'ai bien lu l'article de notre ami Yannonona ce matin, il renonce à se faire opérer sur les conseils du staff médical de la franchise qui dit non, finalement, il faut voir encore. Moi, je trouve qu'il est dans une situation vraiment très très inquiétante pour lui là.
Est-ce qu'il doit partir d'Orlando? Jean-Luc, Georges, est-ce qu'il doit partir dans l'Ando
Il pourrait, et c'est ce que Vendredi dit dans le même papier. Tout est possible. Si LeBron James peut quitter Cleveland pour Miami, vraiment tout est possible.
Jean-Luc.
Non, mais je pense qu'il pourrait certainement trouver une situation un peu plus favorable pour lui ailleurs. Après, il est quand même dans une situation où justement sa perte de temps de jeu, sa perte d'influence est expliquée en grande partie par cette blessure et les difficultés qu'il a. Donc qui va-t-il intéresser ? Qui va intéresser ? Quelle franchise va être intéressée par un type dont on dit qu'il a perdu son aura, qu'il a perdu son impact défensif, qu'il a tout perdu parce qu'il est blessé ?
Et en plus, c'est des chers.
33%, 1,2 rebond à 5,3 millions de dollars cette année.
Il faut qu'il règle ses problèmes de santé déjà, moi je pense. Hein, il a raison. Déjà, règle ton problème de poignet. Après, essaye de tirer au moins du temps de jeu. Parce que s'il n'est pas à 100%, il ne peut pas se représenter lui-même. Alors ça ne sert à rien de changer, d'être blessé dans une autre équipe. Même si il va être barré la route, il aura moins de. Voilà quoi, il faut déjà qu'il soit au top.
Surtout que c'est un joueur qui a des qualités, et s'il était à 100%, il a totalement ses chances dans l'effectif d'Orlando. Il a des qualités défensives que n'ont pas clairement J.J. Redick et Vince Carter.
Ah, c'est son poignet qui l'a barré.
Donc il a toute sa place. Enfin, c'est un joueur en défense, voilà, J.J. Redick est incapable de défendre comme le fait Pietrus.
Le problème c'est pas Pietrus, c'est le départ de Turkoglu. Ils n'ont jamais remplacé la créativité de ce joueur qui filait beaucoup de passes pour des tirs ouverts à Mike Pietrus ou à Rashard Lewis.
Absolument.
C'est ça le gros problème.
Bien sûr, bien sûr. Mike, il bénéficiait totalement de la créativité qu'il avait à côté de lui et la montée, l'installation véritablement forte de Carter dans le roster l'a totalement déstabilisé aussi. Alors après, moi, je me demande si la vraie sagesse pour lui, ça serait pas de dire j'arrête les frais, je me fais opérer maintenant, je fais 3 sur la saison et je reviens me faire une santé peut-être en équipe de France l'été prochain. Encore que, vous savez, j'entends bien son désir, parce que là, il le crie quasiment dans l'équipe d'aujourd'hui.
Aussi, hein.
Son désir de venir, mais...
Mais il n'est pas sûr d'être sélectionné.
Mais en l'état, et par rapport à ce que pourra être le roster de l'équipe de France l'été prochain, moi, c'est même là, je pense qu'il y a une part d'incertitude.
Hein. Il faut quand même dire une chose. Mike Pietrus, c'est quelqu'un que j'adore, parce que je le suis comme son frère depuis qu'il a 13 ou 14 ans.
Il y a à prendre et acheter
au cadet de Pau. C'est ce que j'allais dire. Il a par contre une communication totalement folklorique.
Ouais, mais
ça, il faut être honnête.
Si, c'est clair. Moi, je suis d'accord avec Georges. Mais je pense que Mike, il a assez de talent pour s'imposer dans n'importe quelle équipe. Il faut déjà qu'il répare ses soucis de santé et ensuite sa bouche, elle ira mieux. Donc voilà, il faut déjà qu'il répare son poignet. Et après, je pense qu'il il peut prendre du temps de jeu n'importe où. Et il a du talent, il l'a montré. Il faut juste qu'il passe pas la charrue avant les bœufs. Qu'il se soigne et après, on verra.
Romain.
Moi, je suis d'accord. Je pense qu'il faut qu'il prenne la décision, voilà, de peut-être tirer un trait sur quelques mois, voire toute la saison. Mais en tout cas, il faut qu'il revienne à 100%, qu'il règle ce problème du poignet. Moi, je comprends pas pourquoi il l'a pas fait depuis deux ans.
En fait, il a choisi des injections de gel.
Oui,
c'est révolutionnaire. C'est et d'ailleurs, je crois avoir lu que Ludovic Vatti a choisi le même traitement pour sa cheville. Et là, il vient de re-signer avec Orléans.
Oui,
donc, je lui souhaite un peu plus de chance avec cette thérapie. Si c'est le cas.
C'est vrai,
mais bon, c'est clair que Mike n'a pas trouvé la solution. En quoi ?
Injection, injection, c'est toujours des problèmes à court terme. Après, même si c'est révolutionnaire, c'est toujours du bricolage. Je pense que t'endors la douleur, ça fait rien d'autre que ralentir le processus. Mais en fin de compte, tu vas à l'échec quand même. Hein. Faut qu'il retape ça.
Et puis on reprend des coups sur les avant-bras et les poignets à chaque match. Ça peut expliquer aussi le problème.
La problématique pour Pietrus, c'est que je pense jusqu'à présent, il se disait, si je me fais opérer, je vais quitter le groupe et je risque de perdre ma place au sein de l'effectif. Or là, ça y est, il a perdu sa place, même sans s'être fait opérer.
Oui.
Donc maintenant qu'il a perdu sa place, autant se faire opérer et puis revenir.
Il doit tirer un trait sur la saison, Jean-Luc.
Pardon ?
Il doit tirer un trait sur la saison, Michael Pietrus.
Bah, écoutez, moi, par rapport à ce que je peux voir de sa situation dans ce qu'on écrit aujourd'hui, ça serait tout sauf idiot, quoi.
Ben grave.
Ouais, en tout cas,
c'est le chien qui se mord la queue là.
On espère en tout cas que l'avenir sera plus radieux pour Michael Pietrus, que ce soit Orlando ou ailleurs.
Oui, parce que c'est vrai que c'est un joueur qu'on adore. Il a une personnalité immensément attachante. C'est un type qui apporte une vie dans l'équipe où ils peuvent être. Moi,
et c'est un vrai gâchis en tout cas.
Ça serait.
Et quelle RP pour les Guadeloupe et les Antilles.
Exactement. Ouais, messieurs, non. On va terminer cette page NBA. Une petite page de publicité et on revient juste après pour parler de l'événement qui se passera en Algérie. C'est avec Kadour Ziani, notre invité, qui viendra nous expliquer tout ça.
Tout le basket est sur RTL Équipe. Carrément Basket, Frédéric Schweiker.
La suite de Carrément Basket jusqu'à 12h30. Beaucoup de bonne humeur autour dans ce studio en tout cas. Et notre invité aujourd'hui, Kadour Ziani, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. On va parler dans quelques petits instants de son événement qui va se passer en Algérie au mois de novembre et au mois de décembre prochain. Également toujours avec nous dans cette émission, Romain Brunet, qui est l'auteur du blog Au Rebond sur lemonde.fr. Notre consultant basket, Georges Eddy, également, la voix de Canal+. D'ailleurs, les prochains matchs sur Canal de la NBA, on n'a pas parlé.
Justement, je l'avais pas en tête. Je voulais dire par contre que maintenant, je réponds en audio à des questions de lemonde.fr aussi.
Ah, ça
donc,
c'est bien.
Donc, on est vraiment tous dans le même
barque. On est tous. De toute façon, la NBA a besoin de ça aussi, hein, de tout le basket en général.
Et attention, parce que Canal NBA commence lundi soir,
Sport. 23h55, la première diffusion.
Soyez au rendez-vous.
Exactement. Et il est également avec nous en direct des bureaux du quotidien.
Je crois que c'est à 21h, le premier. C'est la semaine d'après.
Parce qu'il y a des auditeurs, là.
Alors, Kadour Ziani est pris, il a mis ses petites lunettes de spécialiste.
Télo, ouais,
là, je peux vous dire qu'il a endossé un autre costume. Et il est également avec nous en direct des bureaux du quotidien L'Équipe. C'est également Jean-Luc Thomas qui est toujours avec nous dans ce Carrément Basket.
Oui, je fais partie du
Carrément Basket, Frédéric Schweiker.
Vous disiez, Jean-Luc, avant que notre jingle vous coupe.
En bout de ligne, je faisais partie, moi aussi, du Global Network du basket.
Exactement. On peut vous retrouver en début de chaque semaine hein, avec vos papiers d'expertise sur l'équipe.fr notamment. Et bien évidemment, on rappelle que tous les mardis, dans l'équipe, il y a la page NBA avec un très bon focus hier sur Tim Duncan, le joueur des Spurs de San Antonio.
Mes petits camarades du basket font un chouette boulot, là. Ça, ouais. Elle me plaît bien, cette page.
Elle est très, très bien, effectivement.
Mais est-ce que, pour être tout à fait franc, est-ce que ça ne va pas râler au niveau du basket français de voir autant de places données à la NBA depuis hier et aujourd'hui, Jean-Luc?
Très honnêtement, c'est une renaissance cette page, parce que lorsqu'on s'était tourné, ça remonte maintenant, oh mon Dieu, ça ne me rajeunit pas. On a eu une page Sport US qui en fait était une page 80% NBA et 20% reste des autres sports US, et c'était la même logique qui était à l'œuvre, et finalement, comme le basket lui-même n'arrive pas à bien vivre cette dichotomie-là, il peut difficilement nous reprocher de la vivre comme on peut nous aussi. Ouais. Et honnêtement, je trouve que le fait de rubriquer comme ça un peu plus la NBA, ça lui donne plus de relief. Mais très honnêtement, pour moi, ça n'enterre pas le championnat de France.
Et pour être totalement complet, d'ailleurs,
autre chose, ça n'enterre pas l'Euroleague non plus.
Non, parce qu'ils sont toujours bien représentés à chaque fois avec des envoyés spéciaux qui sont sur place pour nous faire vivre au plus près ces événements.
On peut pas reprocher à la NBA d'être capable de produire autant de belles images, autant de valeur ajoutée médiatique à son produit. C'est le basket européen et le basket français qui doivent aussi faire des efforts de ce côté-là. Bon, et j'ai l'impression d'ailleurs que c'est un message qui s'entend aujourd'hui du côté de la Ligue en France. Ils ont envie de faire des choses. Eh bien, qu'ils les fassent, et le plus vite sera le mieux. Quoi.
Exactement, pour redorer le blason du basket français et du basket européen. Rapidement, pour conclure sur la page NBA, avant de donner la parole à notre invité, Kadour Ziani, Romain Brunet, vous vouliez souligner une performance cette nuit qui nous a un petit peu échappé.
Oula. Oui, c'est la victoire d'Indiana face à Denver, 144 à 113, avec un exploit dans le troisième quart-temps. À la mi-temps, Indiana menait déjà de 10 points, il menait 59-49.
C'est historique.
Et dans le troisième quart-temps, tous les joueurs étaient on fire, la main chaude. Ils ont passé 54 points
dans
le troisième quart-temps. 95,2% de réussite au tir.
C'est-à-dire 21 tirs réussis sur 22 dans le troisième quart-temps.
Dont un 8 sur 9 à 3 points. Donc,
c'est le dernier shoot à 3 secondes de la fin du carton qui est raté à 3 points. Sinon, ils auraient fait un 100% sur le carton. C'est vraiment extraordinaire.
Mais malheureusement, ça arrive à Indiana et ça passe au travers de toutes les stats.
Mais attendez, je peux ajouter une chose.
Oui, Jean-Luc, allez-y.
J'ai dit que je trouvais l'attitude de Miami un peu suspecte hier, après le lead qu'ils avaient construit. Vous me permettrez de trouver celle de Denver beaucoup, beaucoup plus suspecte.
Tout à fait.
Parce que franchement, dans le contexte où ils sont, là, avec toutes les histoires avec Carmelo Anthony, quand on regarde les stats cumulées du Anthony en question et celle de Billups, et même sur les highlights, on voit que sur certaines actions, ils sont foutés, mais alors d'une force défensivement. Franchement, là, il y a un gros, gros problème, là, à Denver. Et tant mieux pour Indiana.
Carrément basket, c'est sur RTL.
On parlera du cas de Denver, bien évidemment, dans cette émission, un peu plus tard dans l'année, dans les semaines à venir, parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais en attendant que son téléphone s'éteigne, on va donner la parole à notre expert du jour.
Bon, aujourd'hui, je suis là pour foutre la merde un peu.
Monsieur Kadourziani. Monsieur Kadourziani. On voulait vous inviter parce que au mois de novembre et décembre, 20 novembre jusqu'au 10 décembre, il y aura un événement basket qui va se dérouler en Algérie. Alors déjà, expliquez-nous un petit peu la genèse de cet événement streetball qui s'annonce sur vos terres natales.
On va dire c'est l'histoire continue. C'est l'histoire de, comme Georges l'a vécu avec nous au tout début, c'est l'histoire de la Slam Nation. Hein. Mm-hmm. C'est l'histoire
que tout le monde connaît, qui a traversé les générations.
Et c'est voilà quoi, c'est une histoire fabuleuse.
Et d'ailleurs, Georges a le t-shirt de la Slam Nation. Comme quoi, alors qu'il n'était pas au courant qu'elle revenait. Hein.
Tu vois. Et comme quoi, les vrais savent et que cette histoire de potes, c'est une histoire de légende, c'est une histoire de potes qui sont partis de rien, avec du dunk, qui ont fait le tour du monde, on a fait 400 shows, on était quand même les premiers Français à fouler le sol NBA, il faut le préciser, et avant
Steve,
Tony Parker,
et
avant Olivier Saint-Jean, à Tariq Abdul-Wahad, et donc cette histoire, elle continue, et je suis encore en train d'essayer de bâtir encore cette histoire en essayant de fabriquer une équipe de dunkers assez forte pour représenter le dunk à lui seul. Donc là, on a des nouveaux dunkers qui sont encore improbables, qui font encore des trucs inimaginables. Et voilà, l'histoire continue. Et donc,
on pense à Guy Dupuis notamment qui reprend cette
génération. Guy Dupuis, voilà. Guy Dupuis aussi trouve aussi à qui s'affronter. Parce que maintenant, il y a des nouvelles générations de dunkers avec des trucs impensables. Genre, je pense que si tu voyais ça, tu penserais qu'on serait sur
les 720, par exemple.
Ouais, les 720. Avant, c'était behind the legs.
C'est ça.
Between the legs. Maintenant, c'est...
As a rider.
Ouais, voilà. Maintenant, c'est en dessous les deux jambes. Maintenant, c'est devenu n'importe quoi. Ça tourne dans tous les sens. Bon, voilà, quoi. Le virtuel est devenu réel.
Restez sur terre. Ne vous envolez pas tout de même. Restez avec nous.
Des fois, ils sont à la limite de se taper la tête sur l'arceau quand même. Hein.
Voilà, quoi. En fait, cette histoire, c'est l'histoire de funambules qui sont partis à la quête de rapprocher les communautés avec le dunk. C'est un code pour essayer de donner de l'espoir à plein de jeunes. C'est un peu poétique comme je le dis là, mais c'est vrai, ça donne beaucoup d'espoir à plein de kids qui veulent exister. Donc le dunk, c'est un moyen de s'exprimer, pardon. C'est un moyen de dire voilà, nous aussi on peut, et puis voilà quoi, il faut juste faire le besogneux, travailler dur, et puis fabriquer des ailes, et puis avoir une chance pour faire des tours comme là on va faire en Afrique.
Alors je pense que tous les fans de basket ont vu le documentaire de Nicolas Devirieux vous concernant. Ouais. Est-ce que c'est à partir de là que vous avez décidé de mettre en place cet événement en Algérie ?
En Algérie, c'est un des facteurs qui a poussé à continuer à développer le basket en Afrique, parce que le basket en Afrique, il y a vraiment un potentiel énorme. Mm-hmm. Et les gens regardent la NBA, regardent l'Europe, regardent de loin, mais ils sont prêts, ils rêvent. Un peu, c'est les générations paraboles. Maintenant, c'est Internet, donc tout le monde, les médias sont démantelés, tout le monde a le droit d'écrire sa propre histoire. Tout le monde veut en être, quoi. Et ça donne vraiment beaucoup de... Et en plus, ils nous rendent vraiment hommage parce qu'ils veulent vraiment rebondir sur notre histoire. Ils ont une culture aussi de la mémoire, celle que, ben, comme on en parlait là, avec l'équipe qui rend hommage à la NBA, mais c'est normal, c'est le basket aussi, c'est une histoire de Hall of Fame. Et nous aussi, on a des gloires en France, on a des gens voilà, à qui rendre hommage, donc il faut vraiment laisser des traces, quoi.
Genre. Alors, ça consiste à quoi cet événement ?
Cet événement, ça consiste à faire un tournoi 3-3, représenter la rue avec un contre un de basket, donc, et aussi des concours de dunk, un spectacle de dunk, freestyle, etc., etc. Donc un peu un grand spectacle autour du basket et les dérivés du basket, freestyle, danse. Il y aura quelques rappeurs, mais il y a aussi du jeu, quoi, du 3-3 et des 1 contre 1. On va essayer de représenter un peu, donner la chance à toutes les disciplines.
Et quoi. Ça a lieu où ?
Ça a lieu à Alger, Oran, Sidi Balabès, Béjaïa. C'est 8 universités.
Voilà. 8
universités.
Bougé.
Donc, on fait 8 universités. On va faire le tour carrément un bon petit tour d'Afrique, enfin un bon petit tour d'Algérie. Et on aura tous les médias derrière nous. On va passer en prime time, en direct, avec un show en direct. Ça va être terrible, quoi.
C'est génial, comme idée.
Kadour.
Oui, Jean-Luc, allez-y.
Il y avait dans l'équipe magazine ce week-end un sujet sur l'Algérie qui s'éveillait au rugby. Comment on doit interpréter ce que vous organisez, vous ? Est-ce que c'est l'Algérie qui aujourd'hui a faim de sport et de tous les sports et que la jeunesse algérienne est vraiment se branche sur d'un point de vue global sur le sport ? Ou est-ce que le basket a une place particulière à l'intérieur de ce mouvement-là ? Est-ce que c'est le sport vers lequel les jeunes Algériens, je mets évidemment le foot à part, se tournent en priorité ?
L'Algérie a faim d'exister. L'Algérie, elle veut révéler et libérer ce qu'elle a de meilleur en elle et par tous les moyens. Et quand elle nous regarde de loin, elle nous regarde avec une belle envie. Elle veut pas, même par la médiocrité, essayer de nous rendre hommage. Et l'Algérie, elle veut se représenter dans toutes les disciplines. C'est pour elle une grande aspiration. Et c'est pour ça que j'essaie de partager ce que j'ai vécu ici en France. En France, on m'a beaucoup aidé. Comme je dis, je suis encore là à parler sur RTL avec Georges, avec des carrures. Voilà, franchement, c'est respecter les architectes. Et eux, ils respectent les architectes. Et l'Algérie, elle a vraiment envie de s'appuyer sur nous, quoi.
En tout cas, c'est vrai que...
Les universités sont une structure qui sont favorables à ça ? Ou c'est plutôt les clubs ou... Comment ça évolue ?
La rue n'est pas encore organisée. C'est pour ça qu'on veut faire officialiser les choses un peu plus avec des choses un peu plus, on va dire, corporate, entre guillemets. Et ça commence par ouvrir des données aux universitaires, par exemple, qui font des études de management, de monter des projets. Donc nous, on va leur montrer comment on fait de l'interactivité, comment on fait de l'entertainment, comment on organise des tournois, pour eux, leur donner une vraie idée et de se dire, bah voilà, ça commence par là. Être carré, professionnel, commencer par des petits tournois 3-3 comme le France Basket Tour à l'époque, comme toute cette culture qu'on a eue nous en France.
Et d'ailleurs, on rappelle que tous nos auditeurs peuvent interagir avec Kadour Ziani sur notre page Facebook, sur Carrément Basket, la page Facebook qui a été ouverte depuis hier avec Driss notamment, qui nous dit que vous êtes toujours un grand Kadour Ziani, que tu es un grand monsieur en tout cas du basket. Et c'est vrai que ça fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui, en tout cas Kadour Ziani.
Merci.
Romain Brunet.
Oui, Kadour, vous avez réussi la carrière qu'on connaît grâce notamment, enfin, surtout au travail, à une rigueur, une discipline de tous les jours pour rester au top physiquement, pour réussir à faire les prouesses que vous avez faites pendant toutes ces années. Encore aujourd'hui, bon, on peut le dire, vous n'êtes plus dans votre prime.
J'ai 37 ans.
Voilà, vous êtes 37 ans.
Et
vous continuez à faire des choses exceptionnelles, à sauter presque aussi haut qu'il y a 10 ans.
Votre légendaire kung-fu.
Donc, est-ce que c'est ça aussi que vous voulez transmettre à tous les jeunes ? C'est que, voilà, on n'obtient rien sans travail tous les jours et sans volonté, quoi.
Je pense que j'avais fait un camp avec Georges Eddy.
Tout à fait.
Et lui, il peut être témoin comme quoi c'est un vrai cauchemar de donner du rêve. Mais ça vaut le coup. C'est une rigueur de tous les instants. C'est de la Formule 1. C'est vivre comme un athlète. C'est rien laisser au hasard. Manger pour sauter. Dormir pour sauter. S'asseoir pour sauter. tout est, c'est la quête, c'est une quête du geste juste, c'est réunir la force et la grâce, c'est la quête de plénitude, c'est beaucoup de mots, mais c'est dans tous les instants, c'est un effort de concentration et de dévotion. Et Georges,
moi j'aimerais dire que j'ai eu ce contact très direct pendant ce stage, et Kadour était au niveau mondial pour le dunk, mais aussi pour la préparation physique. Bon, je ne sais pas si des clubs
se sont rendus compte,
mais il a un énorme bagage technique pour la préparation physique, comment améliorer la détente, etc., etc.
Et d'ailleurs, c'est l'une des questions de nos internautes. C'est Vincent qui nous pose cette question, qui nous dit, demande déjà comment est-ce que vous vivez du basket aujourd'hui, et est-ce que l'équipe de France, par exemple, ne pourrait pas faire appel à vous, ou l'INSEP ne pourrait pas faire appel à vous, justement, dans ce cadre de préparation physique?
Moi, je suis là. Hein. Je suis là si on a envie de s'inspirer de quelques méthodes. Mais je veux pas non plus. Je n'attends rien. Je demande rien. J'ai sorti un DVD qui s'appelle Learning to Fly avec une société qui s'appelle Sport Vidéo. Bon, on fait pas de pub, mais c'est pour donner.
On peut trouver sur Internet.
Ouais, on peut trouver. Voilà. C'est une façon astucieuse de domestiquer et de rendre accessible à tous les jeunes qui veulent voler. Donc, on a tous. Ils rêvaient tous et me demandaient tous comment tu fais.
Moi, j'ai arrêté à 5 ans de rêver de voler.
Voilà.
J'ai arrêté à 5 ans.
Mais il te reste NBA 2K.
Ouais.
Donc tous ces jeunes avaient une réelle attente envers moi. Donc moi je me suis sacrifié un peu pour vraiment essayer de fabriquer des petites astuces de tous les jours pour rentrer dans les maisons et pour dire voilà, vous pouvez faire d'une pierre plusieurs coups, asseyez-vous comme ça, dormez comme ça, mangez comme ça, parce que c'est pas que des efforts, c'est des efforts invisibles, hein, la nourriture, le sommeil.
Est-ce que je peux te donner un exemple très concret?
Allez-y,
oui. C'est-à-dire le gainage musculaire. Maintenant, on voit tous les joueurs NBA, tous les joueurs de haut niveau qui font du gainage, c'est-à-dire des exercices spécifiques pour renforcer l'abdomen, le bas du dos et les hanches.
Abdominale, ouais.
C'est ça. Mais c'est tout le centre, en fait, c'est le centre de votre corps. Et Kadour, il parlait de ça des années avant les autres. Et maintenant, c'est devenu très à la mode. Et là, c'est un exemple concret de où il était, encore une fois, en avance.
Jean-Luc.
Moi, dans ce que j'entends, là, je ne sais pas quel rapport Kadour a pu avoir ou pas avec les arts martiaux, mais dans tout ce qui a été développé au niveau du dunk, au niveau physique, la notion de souplesse et d'explosivité était posée, me semble-t-il, de façon très intelligente en s'éloignant des dogmes de la musculation à outrance pour faire des choses justement beaucoup plus fines au niveau du gainage notamment.
Exact.
Et ça me paraît très intéressant parce que ça me paraît aussi intéressant pour des athlètes jeunes. Ça peut, me semble-t-il, leur éviter de faire de grosses bêtises.
C'est un vrai choix, Kadour, justement, de ne pas trop vous développer physiquement, musculairement, et plus jouer dans le côté souplesse, finesse.
En fait, c'est qu'une histoire de mécanisme. C'est-à-dire qu'en fait, on pense tous d'abord à être souple. Non, il ne faut pas penser à être souple. Il faut d'abord avoir un mécanisme bien... utiliser ses vrais leviers. C'est-à-dire, je m'explique, en somme, on a les os, les tendons et les muscles. Alors d'abord, il faut se concentrer sur les os, c'est-à-dire qu'avoir le meilleur rendu au niveau articulaire pour vraiment ouvrir avoir la meilleure amplitude. Donc il faut retrouver... Voilà, il faut retrouver la position du fœtus, c'est-à-dire essayer d'être le plus petit, le plus concentré possible pour pouvoir ensuite bien s'ouvrir. Et donc ça commence par déjà une bonne assise. Et l'assise, c'est l'articulation, c'est le mécanisme, c'est ça. En fait, il faut baser à mort sur les assouplissements. Et ensuite, les tendons et les muscles vont se relaxer. Parce que d'abord, on pense à nos os. Donc c'est les os qui entraînent les muscles et les tendons. Et c'est pour ça que c'est pas une affaire de souplesse, c'est une affaire c'est une affaire de mécanisme, en fait.
En tout cas, si les gens veulent vous voir, encore une fois, Kadour Ziani, dans vos exploits, il faudra aller à Alger, hein, du coup.
Il faudra aller à Alger.
Hein, 20 novembre, 10 décembre.
Moi, j'irai bien à Alger.
Vous êtes les bienvenus.
Jean-Luc, il se positionne, Jean-Luc.
Il fera beau à cette époque-là.
Il fera beau,
à Alger.
On mangera bien.
Voilà, on sera vraiment très, très bien. Et pour lui, cet événement, vous l'avez dit, hein, ce grand rendez-vous du basket en Algérie, qui va, vous le disiez, se déplacer dans 8 régions
différentes. 8 universités, 8 villes.
8 universités d'Alger pour ce grand tournoi de streetball, on le rappelle.
Exactement.
Concours de dunk, freestyle, bref, tout ce qu'il faut du... Également, tout ce qui fait la culture basket également, entre la musique, la danse,
exact,
etc.
Exact. En fait, je voulais juste rajouter un mot, parce que je ne suis pas là pour faire la promotion de cet événement.
Ah bah vous pouvez, vous êtes là pour ça.
C'est juste pour dire que, en fait, moi, mon désir, mon intention, c'est de m'organiser et de capitaliser sur... mon nom, on va dire. Mmh. C'est-à-dire que là, nous, on doit s'organiser. Moi, j'attends rien de la Fédé. Je veux aussi, parce que la Fédé, elle m'aide. On va dire, toutes ces années, j'ai été dénigré, mais c'était pour mon bien, pour me responsabiliser. C'est pas être organisé des choses, s'inviter en marge de quelque chose. Non, ça fait la deuxième année que j'organise le championnat d'Europe de dunk qui porte mon nom. Et c'est une façon de. Eh ben, si j'ai fabriqué ce nom, c'est une crédibilité. C'est aussi une grande responsabilité. Donc, en tant que lieutenant, on va dire, je dois donner une possibilité aux jeunes de pouvoir se rendre visible et d'exister. Donc moi je n'ai aucune aigreur, aucune attente. Mm-hmm. Si on m'appelle pour donner une influence, pour dire oh, tiens Kadour, ça serait bien que tu fasses un petit stage faire une initiation, nanana, bah voilà, je suis prêt. Mais j'ai aucune aigreur envers qui que ce soit.
Kadour, vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission, jusqu'à 12h30. Kadour Ziani est avec nous dans Carrément Basket. Avant de parler d'Euroleague, on va libérer Jean-Luc Thomas, hein, qui était avec nous toute la matinée également pour ce Carrément Basket. Merci beaucoup Jean-Luc d'avoir été avec nous.
Avec grand plaisir mon cher Fred.
Et on se retrouve très bientôt dans un prochain Carrément Basket.
Tous les mercredis dès 11h30, Carrément Basket sur RTL L'Équipe. Carrément Basket, l'Euroleague.
Et ce débat aussi sur l'Euroleague, vous pouvez le prolonger sur notre page Facebook, Carrément Basket. L'Euroleague, c'est l'un des événements également de la semaine. Un jeu avec ce déplacement de Cholet au Cibona Zagreb. Ce sera demain à suivre sur Sport Plus en direct à 18h30.
C'est ça, plus tôt que d'habitude.
C'est un petit peu plus tôt que d'habitude sur le parquet de Zagreb avec et Cholet qui va viser une deuxième victoire de suite.
Grand bravo à Cholet. Je pense que tous les trois, on peut dire, nous avons eu raison.
C'est ça,
ils enfin ont bien battu Vilnius. Le message de Kuntir est bien passé. Et franchement, ils ont fait un match, je dirais presque héroïque, parce que l'adversaire était de grande qualité. Vous avez vu El Amin, l'ancienne star universitaire et joueur NBA. C'est pas rien en face non plus. Hein.
Et de Strasbourg.
Oui, tout à fait. Et maintenant, il faut concrétiser. Et il faut perdre le minimum d'écart demain ou gagner.
Ou gagner, c'est encore mieux. On rappelle que Cibona Zagreb fait partie des adversaires directs pour Cholet dans la possibilité d'accession pour le top 16. Et pour en parler avec nous ce matin, un ancien Choletais nous fait le plaisir d'être avec nous. Il était à Cholet entre 89 et 92, entre 93 et 97, l'ancien international Bruno Coqueran. Bonjour Bruno. Bruno. On a du mal à avoir Bruno. En tout cas, c'est vrai, hein, Romain, que cette rencontre face au Cibona Zagreb demain est très, très importante pour en vue de cette continuation d'espérance pour le top 16. Hein.
Oui, bon, bah, on se répète toutes les semaines, hein, mais donc Cholet joue on le dit toutes les semaines, un championnat à 3 avec le Cibona Zagreb, et Lietuvos, Ritas, Vilnius pour finir à la 4e place de ce groupe C. Cholet a fait un premier pas important la semaine dernière en battant Vilnius. Là, voilà, c'est le deuxième test. Il faut gagner contre Zagreb. Ce sont les deux équipes vraiment à battre dans ce groupe. Donc, je pense, pour moi, le Cibona a l'air un peu plus faible que oui, Lietuvos Ritas.
Tout à fait.
Donc je pense que Cholet a toutes ses chances, même à l'extérieur.
On a trouvé Bruno Coqueran qui est avec nous. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Bonjour Bruno.
J'imagine que vous espérez également, en tant qu'ancien Choletais, d'avoir enfin de nouveau une équipe dans le top 16. On se rappelle, ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas vu. Ça serait pas mal que Cholet arrive à le faire. Hein. Ils sont bien partis en tout cas.
Ouais, c'est très bien parti. Bon, maintenant, le Cholet, c'est bien pour nous, Choletais. On est très fiers de tout ça, quoi. Être dans la continuité de ce qui a été fait la saison dernière, ne serait-ce qu'au niveau du championnat de France, et puis avoir le plaisir justement pour les supporters d'ici de vivre ce genre de match. Ils nous ont vraiment fait de superbes parties à suivre à domicile, là, et quelques victoires de plus, évidemment, ce serait très bien. Ouais.
Et d'ailleurs, ce soir, on aura un beau duel également entre équipes invaincues depuis le début de cette compétition. C'est Sienne qui, je crois, reçoit Fenerbahçe ce soir dans cette même poule que concernant Cholet. C'est, on parlait de l'exposition du basket français. Kadour, une équipe choletaise qui arrive comme ça pour l'instant à répondre présente depuis le début de cette compétition, qui pourquoi pas pour atteindre le top 16, c'est également bien pour le basket français sur l'exposition.
C'est clair. Bon, après, d'après ce que j'entends, là, c'est Cholet cette année, c'est la hype un peu du basket français. Ça fait plaisir.
Le champion de France.
Ça fait plaisir de voir que le basket, il donne la chance à plusieurs équipes. Donc chaque année, on a une équipe qui sort qui est... Mais moi, pour moi, c'est, ça me fait un grand plaisir de voir qu'on peut rivaliser avec les gros cylindrés. Comme il a dit Georges, il y a des équipes qui se composent de anciennes gloires NBA. C'est pas évident parce que c'est des tueurs, ces mecs-là, et ils sont je veux dire, c'est des, un peu des
la culture basket, hein.
Ouais.
Et moi, j'ai du très vive les petites villes, parce qu'en ce moment, on critique un peu trop les petites villes du basket.
Oh,
pourquoi on n'est pas dans des grandes agglomérations? Bah, c'est déjà bien ce que fait Cholet.
Qu'est-ce qu'ils ont 50 000 habitants? C'est une fierté, hein, pour les petits marchés comme ça, d'avoir une équipe comme Cholet qui représente si bien le basket français.
Ah ouais, ouais. Mais bon, Georges, il connaît très bien Cholet, hein, donc personne ne va expliquer exactement qui est Georges Eddy, mais Cholet, c'est quand même, ça fait partie de l'histoire du basket en France, quoi. Donc, qui se retrouve aujourd'hui à ce niveau-là, que ce soit en championnat de France ou au niveau de l'Euroleague, je dirais que c'est... ce n'est que justice, quoi. Il y a un certain moment où on courait, on était dans le top 5, France, etc. On a fait quand même quelques coupes, Coupe d'Europe, que ce soit la Coupe Corinth et tout, quoi. Donc aujourd'hui, ce n'est que justice. Vraiment, je me répète là-dessus. Et la formation à la Choletaise, effectivement, que ce soit pour Cholet ou Pau ou des villes comme Le Mans et autres, ce sont des choses qui payent aujourd'hui, même si effectivement les équipes sont plus faites d'une majorité de joueurs français, il y a quand même une histoire et puis un public qui est un public ou Choletais ou de Gravelines, etc. Des équipes quand même qui mènent le championnat et tant mieux que ça soit très bien, enfin que ce soit comme ça, quoi.
Ouais, rapidement pour conclure sur cette rencontre entre le Cibona et Cholet, Romain, Stéphane nous le disait sur la page Carrément Basket sur Facebook, le Cibona Zagreb, c'est un peu comme le Partizan, c'est une équipe qui tous les ans nous sort de très bons joueurs. Hein.
Effectivement, c'est une équipe qui a l'habitude de l'Euroleague, qui participe tous les ans. Et donc qui a cette expérience, c'est pour ça qu'il ne faudra pas pour les Choletais de sous-estimer le Cibona Zagreb, même s'ils sont à 0 victoire, 3 défaites, qu'ils ont connu une lourde défaite la semaine dernière, c'était face à Sienne, 80-57. Donc voilà, il ne faut pas les prendre de haut. Cholet, eux, même s'ils sont champions de France, ils découvrent l'Euroleague.
C'est pas le style de la maison quand même.
Ouais, donc voilà.
Non, ouais.
Effectivement. Donc, mais je voulais rebondir sur les joueurs français. Il y en a un, c'est Mac Gélabal, qui était Cholet l'année dernière. Peut-être qu'aujourd'hui, il regrette d'avoir quitté Cholet pour l'ASVEL.
D'être parti effectivement du côté de l'ASVEL. C'est terminé pour ce Carrément Basket. On remercie Bruno Coquerand d'avoir été avec nous ce matin pour cette présentation du match entre Cholet et le Cibona. À suivre demain sur Sport Plus, 18h30. On remercie bien évidemment Kadour Ziani. Le 20 novembre, 10 décembre, le grand événement basket streetball. Concours de dunk et également freestyle. Ce sera en Algérie, bien évidemment. Nous reviendrons sur ce tournoi dans nos différentes émissions. Merci beaucoup messieurs, Romain Brunet, Georges Eddy, également Jean-Luc Thomas qui était avec nous en direct du quotidien L'Équipe. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Carrément Basket. Avant cela, on peut faire un petit point rapide sur le tennis avec Myrti Rambian. On le fera un petit peu plus tard. On suivra avec Myrti toute l'actualité du tournoi de Bercy en live sur notre antenne. Merci beaucoup et à très bientôt sur RTL L'Équipe.